L'Algérie chantée. Par Rachid Mortari et Malik Alafer. Réalisé par Nasser Atoumi. Amis auditeurs, bonsoir. Rachid Mortari, bonsoir.
Amis auditeurs, Malika, bonsoir.
Alors ce soir, nous parlerons d'une forme d'expression poétique populaire qui appartient à la culture donc islamique. L'origine, celle-ci donc glorifie les temps héroïques de la conquête de l'islam, du prophète et de ses compagnons. Cette poésie qu'on appelait Razawet ou Fakhr était écrite en arabe classique pendant les premières années donc de la conquête coloniale. Au plus fort de ses défaites, celle d'Abdel Qadir, d'Al-Muqrani. Donc ces razawettes furent utilisées, dites par des meddah, en arabe populaire accessible donc à la population. C'est-à-dire que la communication était importante et ils savaient le pouvoir de cette...
De ce genre poétique.
De ce genre poétique, de communication. C'était aussi une forme de compensation, d'exutoire, de pansement à ses défaites.
Nous verrons tout à l'heure, Malika, qu'on ne peut pas assimiler, si vous voulez, ce genre fakhr à ces razawat, puisque le genre fakhr remonte très loin dans le temps. Mais nous insisterons sur l'impact que ces razawat ont eu dans l'expression culturelle contre la colonisation.
L'expression ou la geste poétique qui a accompagné les résistances agraires contre la pénétration coloniale a été celle de la culture islamique populaire qui, n'ayant pas encore intégré l'idée moderne du rapport colonisateur-colonisé, fut une contestation radicale, fermée à toute évolution historique. Message messianique, les poésies orales d'inspiration religieuse opposent à l'extrême l'infidèle ou le rommi plus tard, aux musulmans, et le pays n'est autre que la terre d'islam. Ces grandes épopées de l'islam, conquérantes, décrites, dépeintes avec beaucoup de fakhr, fierté, sont portées par des meddah sur les places publiques et les marchés. Dans les cafés morts, et surtout lors des ziyarats, des offrandes aux saints locaux, dans les mausolées et pendant les fêtes du sacrifice de l'Aïd. Mais cette forme du discours poétique, imposée par la déstructuration socio-culturelle de l'Algérie à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le Qarn 14, siècle maudit dans le référent culturel populaire, cette forme d'expression religieuse s'est faite sur la base du remaniement ou adaptation thématique des formes d'expression antérieures. La forme poétique qui accompagna les grandes gloires des conquêtes islamiques du temps du prophète et du courage légendaire de ses compagnons fut ainsi réactivée par la geste poétique des résistances agraires d'Abd al-Qadir, de ses khalifas, et plus tard, en 1871, au plus fort des derniers sursauts de la paysannerie algérienne, celle d'Al-Muqrani et de Cheikh Al-Haddad. Rachid Mokhtari, le genre fakhr, comment le définir, ce genre donc poétique, et à quelle période s'est-il exprimé?
Il faudra d'abord nous situer dans les références bibliographiques. Nous avons éléments d'histoire culturelle algérienne de Abdelkader Jaghloul que nous allons présenter dans cette émission, mais surtout la monumentale histoire de la littérature arabe des origines à la fin du XVe siècle de Régis Blacher, qui est connu, même très autoritaire dans ce domaine. Mais avant d'aborder, si vous voulez, les thèmes du fakhr, voyons brièvement quels ont été les thèmes poétiques avant 670 de l'ère de Jésus-Christ.
Hein. Oui.
Je me suis référé à Régis Blacher, comme je l'ai dit, dans ses trois volumes sur la littérature arabe. Dans ses thèmes poétiques, il distingue les chants de guerre. Donc, les chants de guerre, dans ces chants de guerre, il y a l'attitude fakhr.
Oui.
Alors, dans ces chants de guerre, sous cette appellation, il désigne de nombreux éléments thématiques. Par exemple, les défis lancés par des combattants avant et pendant la rencontre, le lieu ou le lien avec les mélopées du désert et les conflits intertribaux, hein, soit maintenant avec l'expansion islamique.
Oui.
Donc, ce champ de guerre se réfère soit à l'époque du paganisme, c'est-à-dire l'époque
anti-islamique,
et avec l'expansion islamique.
Mais fakhr veut dire, tout précisément, si on devait donner un synonyme, glorieux.
Enfin, fakhr, il possède beaucoup. C'est un terme très polysémique en arabe. Hein. Il peut indiquer aussi bien la fierté, la vaillance, la gloria, le stoïcisme, mais il peut être également chargé de péjoration. Hein, de péjoration, c'est-à-dire la vantardise. Vous savez,
donc,
il est très
pour polysémique. Être plus clair, avant la période anti-islamique, le fakhr, il a existé et il s'est exprimé en quels termes?
Alors, Régis Blacher donne toute une historique sur cette idée de fakhr.
Oui.
Il dit que ce n'est pas un genre poétique, mais une attitude du poète dans son groupe, face à son groupe, dans son environnement socio-culturel. Mmh. C'est ce qu'il dit. Il dit même, le mot évoque non un genre, mais plutôt une attitude qui pousse le poète, soit à se distinguer de son groupe, donc c'est déjà une attitude de fakhr, soit à se dresser face à son adversaire en se prévalant de ses mérites, de ses exploits personnels et de ceux de sa famille ou de son clan. Cet thème également procède du caractère bédouin jusque vers 670. Il cite par exemple le Médinois Hassan ibn Thabit qui développe des thèmes du fakhr, du style bédouin le plus pur. Par exemple, tout est occasion pour lui de fakhr, pour peu que cela flatte l'orgueil de celui qui écoute. Et le fakhr qui est une inspiration individuelle, comment ce fakhr qui est une inspiration individuelle, qui signifie l'assouvissement également de la vengeance dans l'époque du paganisme. Il a été exprimé également par les poètes brigands, le fakhr, c'est-à-dire qui évoque la témérité, le courage, la résistance à la dure vie du désert. Et également, cette forme, cette attitude de fakhr chez les poètes paganistes, comment est-elle exprimée dans l'époque islamiste? Alors, il y a eu ce passage donc, du fakhr individuel, du poète qui se distingue dans sa tribu, vers le poète qui utilise maintenant
la
religion, c'est-à-dire autant la traîtrise, toutes les mesquineries vécues par l'auteur, par les poètes, lors de l'époque anti-islamique ou lors du paganisme. Ensuite, lors de l'époque coloniale, ce fakhr va être intégré dans la dimension islamique, religieuse, et prôner les valeurs islamiques et à l'antithèse de l'impiété. C'est-à-dire l'antithèse de cette impiété. Et il continue, Régis Blacher, par exemple, et c'est le fakhr également, on le retrouve dans les contes. Dans les contes, il y est encore, par exemple, dans les Cent et une nuits. Dans les Cent et une nuits, il y a beaucoup de fakhr dans les personnages mis donc dans les contes
Des mille et une nuits.
des Cent et une nuits.
Oui.
Mais à mesure que la société arabe s'étend hors de son domaine primitif, c'est-à-dire le désert, éloigné de la primauté des nomades,
Oui.
donc, le fakhr va être enrichi de quelques éléments thématiques chez les poètes islamistes. Par exemple, les richesses ne sont plus célébrées en troupeau, comme dans le temps anti-islamique, donc
Oui.
le fakhr économique, mais il sera célébré en terre et en palmier. Le poète donc passe du fakhr personnel, tribal, au fakhr du croyant. Il se chante, non pas en tant qu'homme téméraire, etc., mais il se chante comme croyant ou guerrier pour la foi. Il ne chante plus il n'est plus guerrier pour un butin, n'est-ce pas, comme dans le temps du paganisme, mais il se chante comme guerrier pour la foi. On peut dire que le triomphe de l'islam semble bien avoir obligé les poètes au service, donc à l'époque des premières conquêtes islamiques, à abandonner par exemple toutes les expressions qui sont incluses dans le fakhr, l'injure, les thèmes satiriques, le trop chargé
Ah, on a même utilisé la
La
satire.
satire, oui,
Oui.
la satire, trop chargée de bédouinité païenne, il a abandonné tout cela pour avoir une mission, donc, de glorifier les grands messies, les grands conquérants de l'islam.
Rachid Mokhtari, donc on a vu que le fakhr à la période anti-islamique, pendant l'arrivée de l'islam,
Oui.
et comment a-t-elle évolué et comment s'est-elle exprimée pendant la colonisation? C'est ce que nous verrons donc ce soir, nous allons essayer de comprendre.
Oui, je
Oui.
continue brièvement, mais c'est
Oui.
pour dire que même si ce fakhr qui est né du paganisme, c'est-à-dire
Oui.
de l'époque anti-islamique, vous avez les mu'allaqat qui sont connus, il intègre également la dimension des thèmes amoureux
Oui.
dans la poésie anti-islamique surtout. Mais ce poids du paganisme a été si lourd dans ce genre fakhr. Que ce fakhr est demeuré dans son expression paganiste, même après la prédication de l'islam. Disons que simplement les poètes ont abandonné tout ce qui pouvait choquer la
Peut-être
susceptibilité
qu'il faudrait expliquer aux
du
auditeurs ce que
musulman.
c'est que le paganisme.
Le paganisme, c'est l'époque anti-islamique, les luttes intertribales, les conflits interpersonnels. C'était toute la vie, toute la rudesse de la vie donc du domaine primitif des Arabes, c'est-à-dire le désert. Et
Oui.
dans ce désert, le fakhr, c'était l'expression personnelle du poète face à son environnement socio-culturel. Ensuite, comment je réponds à la question, cette évolution. Ensuite, on sort de ce cadre primitif, du désert, de l'expression personnelle ou bien de l'expression des chroniques de la quotidienneté pour atteindre, avec l'avènement de l'islam, des poètes qui se sont mis au service du prophète. Ensuite, ils abandonnent toutes les expressions, l'injure, toutes les expressions qui pouvaient choquer la susceptibilité des musulmans. Ensuite, ce fakhr va donc servir d'expression pour célébrer, pour rendre hommage aux grands conquérants de l'islam.
Oui.
Ça, il va être intégré dans la foi.
D'accord. Alors, on va écouter une chanson, puis on va voir comment le fakhr s'est exprimé pendant la période
Colonial.
coloniale.
طوبى الحاملين الرايا طوبى لهم طوبى الساكنين قرون الجبال طوبى الحاملين الرايا طوبى لهم طوبى لساكنين قرون الجبال حملوا المجد والكرامة لبلادهم حملوا العز والحرية والمال باعوا النفوس جعلوها ثمن وطانهم وفوا عهد وانصرهم ذو الجلال تبعوا طريق بعصرية قدامهم خطة مسطرة في غابر الأجيال
Parmi ces formes d'expression poétique, les Razaouet ont marqué la vie mythico-religieuse, dont les référents symboliques ont été progressivement détruits ou vidés de leur substance. Les Razaouet sont des récits le plus souvent en vers, d'inspiration épique, largement relevés de merveilleux, relatant les exploits guerriers des musulmans de l'époque du prophète, surtout de ses six compagnons les plus célèbres. Écrites en prose et en langue arabe classique au premier temps de l'islam, ces Razaouet appartiennent à la littérature épique islamique du genre Fakhr. Celle-ci célébrait la gloire des premiers temps de l'islam, la soumission des Qurayshites, la conquête de la Syrie, Futuh Shams, et des paysans chrétiens, Ras el-Ghoul. Toutes glorifient les hauts faits d'armes du prophète et les charmes des belles infidèles converties pour l'amour des héros de l'islam victorieux. De Mokhtari, la question, je vous la repose, comment ce fakhr a évolué pendant la période de la colonisation, puisqu'on avait vu les plusieurs étapes.
Oui, enfin, d'abord, il faut le situer, comme nous l'avions dit, dans l'époque paganiste, oui. anti-islamique, oui. et lors des premières conquêtes islamiques.
Oui.
Brièvement, lors de la période anti-islamique, le fakhr a été une inspiration individuelle et il s'épanouit surtout chez les poètes en rupture de ban avec leur société. Donc nous avons dit que c'était l'expression du le fakhr dehors la loi. Par exemple, oui. Ils chantent la résistance physique à la fatigue, aux intempéries, à la faim, à la soif également. Oui. Ensuite, avec l'avènement de l'islam, cela devient le fakhr pour la foi, pour l'expansion islamique. Maintenant, comment ce fakhr, cet héritage du fakhr a été exprimé lors de la conquête coloniale? Comme vous l'aviez souligné, initialement, ce genre était, ou c'est Ghazawat, c'est pas le terme de Ghazou. Vous aviez cité Futuh Hisham. On peut citer également les grandes victoires de l'islam, le Ghazawat Badr. C'était une victoire de l'islam. Les fonctions des Ghazawat, qui est un genre épique, qui relate les grands faits des conquêtes islamiques, a été réactivé par la culture populaire islamique au moment des grandes défaites.
Mais quelle est la différence entre le fakhr et le ghazawat?
Le fakhr, nous avions dit, et c'est une attitude du poète dans son groupe par rapport aux événements vécus. Les ghazawat, c'est un thème religieux qui est apparu lors des grandes défaites agraires, qui ont réactivé les poètes, les poètes populaires, comme vous l'aviez souligné sur les places du marché, lors des fêtes religieuses, etc., ont réactivé ce patrimoine donc populaire, mais qui était initialement écrit en arabe classique, exprimer les grandes défaites agraires. C'est pourquoi il est très difficile d'exprimer ou d'expliquer cette évolution, comment ce genre qui date de l'époque comptée islamique dans son attitude, c'est-à-dire en tant qu'attitude du poète face au groupe, et les thèmes religieux avec les premières conquêtes coloniales, comment a été ce long cheminement jusqu'à arriver à exprimer encore une fois cette fierté, cette symbolique de la fierté face à l'expansion coloniale. Alors, dans éléments d'histoire culturelle que nous allons présenter, Abdelkader Djerloul analyse la fonction du fakhr. Qu'est-ce que c'est la fonction du fakhr ou des ghazawat brièvement? Et il dit que les ghazawat ne servent pas seulement d'exutoire, elles ne sont pas seulement une rêverie nostalgique, elles ont un rôle de maintenance dans les résistances agraires. Aussi, brièvement, c'est-à-dire que la distinction entre le fakhr, qui est une attitude morale, sentimentale, une attitude individuelle, une expression spontanée, et les ghazawat qui sont donc originaires donc de l'expression des premières conquêtes de l'islam, qui ont témoigné des grandes victoires islamiques, vont encore une fois témoigner d'autres tragédies, à savoir l'expansion coloniale et les résistances agraires des années 1800.
مزيان خطي ويا ناوري حليت وقريت ونظرت ما في الكتاب حضري بالدم على سواري يبكيت من الفرقه وجوه الحباب ملوح شقوايا وضرا وريم بكيت علي وطني خاوتي والسحاب وهليل معاود انظاري وطني وطني ويا عودم صفينا جدود والدوي ورايس مولودم خلفهم عواسلاف يهلي الرايا والمقدودم طود من بعد طود تدات اللي المسعودم حرم للي ويخاف يهلي الخصلايا والجود والحيا والي ودود والميثاقايا المعهود بالفيا والنصاب يهلي تقي مقصود دايما علي وجود تسمع حسايا البارود من بعيد الضياف يهلم كحليا وبنود تختفق ما سدود تمرق للماء وزعنود طيغال الزحاف
يا سعبري وي أحمد Le mari de la Vierge. Où est Abou Bakr? Le véridique et Omar, ces seigneurs qui n'ont plus leur pareil. Si les femmes ne leur donnent plus de successeurs, qu'elles restent donc stériles. Damnés sont tous ceux qui montent les chevaux de bataille depuis le temps d'Ali, le lion de l'islam et depuis Ben Jafar. Oui, damnés tous ceux qui montent les chevaux. D'années ceux qui ont chevauché des destriers depuis la mort de notre intercesseur, le fils d'Abdallah. Où est le véridique? Où est Khaled? Où est le neveu du prophète d'Allah, Zohir qui tenait tête à 1000 cavaliers et n'en laissait échapper qu'un petit nombre? Que de drapeaux plantés sur les hauteurs ils ont enlevés? Que de légions ils ont enfoncées qui s'enfuyaient perdues? Et où est-il le héros qui mettra un terme à vos chagrins? Ah, il me faut le pleurer sans cesse, en attendant impatiemment sa venue. Rachid Mokhtari, c'était un poème donc des années de défaite agraire.
Absolument.
C'est Ben Chotouan, 1800, dans les années
1830. Dans les années des 1840,
40, oui.
Puisqu'il fait référence à, aux défaites agraires.
Donc face à une dérive donc, du XIVe siècle, on l'a dit dans les émissions précédentes que ce fut un siècle funeste, où tout était donc déstructuré, cassé. L'instinct quand même populaire est redynamisé par le retour des référents religieux des premiers temps de la gloire de l'islam.
C'est très important cela.
C'est ce qu'on appelle les messages messianiques. On attend le Messie.
Absolument. Mais c'est cette forme de résistance culturelle a supplanté, si vous voulez, les défaites militaires, les défaites physiques.
Oui.
Il n'y a pas de défaite morale.
Oui.
C'est ce qui est très important à souligner ici, c'est que à travers le poème que vous aviez lu, qui exprime une des fonctions des Ghazouettes, le poète fait appel aux premiers conquérants de l'islam, aux prophètes, à ses compagnons, la figure prestigieuse de Khalid qui a été le conquérant de la Syrie, la figure légendaire de Sidna Ali, et dans l'imagerie populaire, c'est ce message messianique.
Alors comment peut-on définir les différents rôles des Ghazouettes?
Oui, un mot pour continuer sur cet appel messianique dans ce poème qui est absolument très beau mais à la fois très fort comme mobilisation puisqu'il a cette fonction de mobilisation et cette une fonction de mise en alerte également. Parce que derrière cet appel au Messie de l'islam, derrière cette glorification des grands noms de l'islam, s'exprime également la complainte du poème, la tragédie des défaites, des différentes défaites agraires.
La résistance paysanne.
Voilà. Mmh. Alors, quels sont les différents rôles? Bon, ces différents rôles ont été recensés par Abdelkader Djerloul. Bon, on peut les donner schématiquement. Nous avons le rôle de compensatoire, c'est-à-dire une revanche, comme le poème que nous avions lu. Il exprime une revanche. symbolique de l'islam des premiers âges, une revanche donc symbolique de la fierté des différents chefs religieux, des différents chefs également des premières conquêtes de l'islam. Cette compensation évidemment servira d'exutoire à la paysannerie algérienne qui, face aux tragédies, va donc oublier toutes les blessures à travers cette fonction d'exutoire. Mm-hmm. Nous avons également un rôle de propagande, puisque vous mm-hmm. avez dit tout à l'heure que c'est Rezouad qui s'exprimait en arabe.
Classique, ont été adaptés par le geste populaire.
La geste populaire, et elles s'exprimaient dans les espaces publics mm-hmm. où elles ont une fonction de propagande, de mise en alerte. Nous avons également cet espoir messianique qu'un jour donc les grands reviendront pour les sauver. Nous avons également une fonction politique, c'est-à-dire que la référence au passé symbolique mythifié du passé glorieux de l'islam est un refus de la défaite, un refus moral des défaites agraires. Voici les différentes fonctions qui ont été stigmatisées par Abdelkader Djerloul et concernant donc ces razouettes qui ont marqué comme expression mm-hmm. culturelle le refus moral, dirais-je intellectuel, si le mot est exact, contre la colonisation.
Mm-hmm. On peut dire que la poésie était une forme très forte de l'image.
Ah oui,
l'image n'existant pas.
Oui. D'ailleurs, nous verrons la chanson que nous avions écoutée tout à l'heure, Ahmed Ouhabi, sur Abdelkader, on peut le considérer comme un chant phare.
Oui.
Élogieux. Élogieux. Mm-hmm. Cependant, on peut voir dans ces razouettes une reconduction mm-hmm. D'un passé, certes glorieux, mais qui n'évolue pas, si vous voulez, mm-hmm. c'est-à-dire qui reste figé dans le passé et qui est incapable de formuler, si vous voulez, un projet culturel dans le présent.
راني مهول مانيش في حالي عقلي تخبل بالوحش تخبالا يا ليه يا مروة غريبة الغالي نوبان جالس في ناس عقالا ينقول ذا الأول خير متالي بعد ما كنت عزيز في حالهم واللي تراخس وسمتي غالي شاوي معطل باش اعتب مسالة ينأمر الجن علاش يهوالي واللي تقاضي عندي العودة لهم وفك بين الشرع بسالي بطبع الزعالم والحكم يظلم ما درت بفعالي شوفوا الدنيا يا ناس بالدعالم يخليت وطني وضحية زوالي وطني ناسي للشوم رجالم يشحيل من في الجهد وها خالي بسرج من بعد تباء شعالم والقاضي والحرج في ليالي يا قلبي تفكر الأوطان الزهو وركوب الخيل يا ورعيتي والفرسان خودات بحراجة ميل متحزم من اللفتين شبان تنطح بك حيلم يا متحزم من اللفتين شبان تنطح بك حيل زهو يوم الميدان قلال وقصبت يا ويلم وذقاصر والغيوان وفرايج عقب الليل سبسي كيف الدخان شمعه وضي القنديل.
Hachem Mokhtari. Alors là, c'est Ould Delaïd Mustralmé qui chante un poème, donc il a été mis en musique, on ne sait pas par qui, de Mustapha Ben Brahim. Et ce poète.
Dans cette poésie, il exprime la nostalgie du pays lors de l'époque anticoloniale.
Oui.
Parce que là, il cite la fierté des chevaux, il fait référence à la fantasia, il fait également référence à toute la richesse culturelle qui a été détruite. Dès les premières conquêtes coloniales.
Alors Mustapha Ben Brahim, dont nous avons parlé au cours de notre émission précédente.
Voilà.
Les planes, oiseau, te hâteras-tu ? Appelle le bel Ali. Avec les Français, nous menons un combat acharné. Dieu fait nous vivre encore un an que nous repartions en guerre. Je vous invoque, Jean d'Afri. Et vous, les 60 chapitres du Coran, vous qui dites le chapelet, et toi, Omar ben Khattab, faites que les chrétiens tombent dévorés par les chiens. J'implore les saints patrons du dur du rat, tous les talbas d'Odris, tirez-nous, mon Dieu, de cette épreuve, nous n'en avons pas la mesure. Ce que nous pouvons dire, Rachid Mokhtari, exécutoire de la douleur et des souffrances morales subies, compensatrice des humiliations et des tragédies des possessions, il a de la fierté et des gloires anciennes des temps héroïques de l'islam, fervent appel du Messie, du prophète, ses poésies fortes, et puis comme dans la fierté de l'islam conquérant, la résistance acharnée contre l'occupant.
Oui, et le dernier poème que vous aviez lu exprime également cet espoir messianique, puisqu'il fait un appel désespéré aux grands conquérants de l'islam, aux gendres du prophète. Disons pour synthétiser que toute cette poésie a servi non seulement d'exutoire, comme vous le dites, mais également comme un refus catégorique de défaite morale face à la colonisation. Ces poésies ont toujours cultivé l'espoir d'une revanche.
Oui.
Et c'est cet espoir d'une revanche sur le colonisateur qui a poussé, donc qui a fait que cet geste poétique a réactivé tout le patrimoine du passé islamique, des grandes conquêtes islamiques. C'est-à-dire que c'est à travers cette culture religieuse, dont les productions aujourd'hui restent méconnues, que... face à la conquête coloniale, l'expression poétique a servi de courage, de mise en alerte, de refus systématique contre la colonisation. Évidemment, on verra que après, au début du siècle 1900, d'autres expressions poétiques donc vont prendre le relais et que ces razouettes n'ont pas continué, si vous voulez, à être chantées, par exemple, dans les années 50 et plus tard.
Oui.
C'est que nous sommes dans les années 1800 et nous sommes dans l'expression culturelle à caractère religieux.
Alors là, pour terminer, avant de passer à la rubrique culturelle, c'est pas une question, mais je voulais savoir si vous étiez d'accord. Dites, même si la culture islamique populaire, même si elle constituait un formidable réservoir de la contestation populaire, elle ne fut qu'une vaine répétition d'un passé mystifié. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, on peut dire que ça, il ne s'agit pas d'être d'accord ou non, mais de
Oui.
voir les
Elle a
cela
été l'essence quand même de
comme
la résistance.
objectivité.
Elle n'a
C'est
pas été
vrai.
l'essence de la
C'est
résistance?
l'essence de la résistance sur le plan de l'expression
Oui.
culturelle, mais en réactivant un passé par l'imagerie, simplement par une symbolique, c'est que cette poésie est du coup bloquée, c'est-à-dire par son référent au passé. Et il n'y a que des références au passé, c'est un passé recyclé, si vous voulez, dans la culture islamique,
Et elle est aussi
mais
nécessaire.
non pas nécessaire, elle a été, comme vous dites, l'essence des premières résistances populaires contre la colonisation, puisque avant la reprise historique des années 1900 avec l'émir Khaled, avec les nouveaux moyens d'expression, c'est-à-dire ce n'est plus le Meddah, mais c'est la presse, c'est les premiers journaux de l'Algérie coloniale. C'est que avant la reprise historique, l'élément religieux dans l'expression culturelle algérienne contre la colonisation a été primordial.
Donc, on ne peut pas être d'accord que la contestation populaire ne fut qu'une vaine répétition d'un passé mystifié. Et ce soir, nous parlerons dans notre rubrique littéraire, nous rendons, je ne sais pas s'il faut dire hommage, à Abdelkader Djerloul, qui a écrit Éléments d'histoire culturelle algérienne.
Oui.
Ce roman retrace un peu l'évolution de l'expression culturelle de l'Algérie,
Oui.
des premières années de la conquête jusqu'à la guerre de libération
National,
nationale.
signalant qu'il a
Oui.
été édité par l'ENAL en 1985. Mais
Et en
pour...
présentant ces livres,
Oui.
c'est pas tant. C'était aussi pour dire qu'il y a eu des écrivains qui ont écrit sur des thèmes tels que la poésie, tels que nous avons parlé, toute cette vie culturelle
Absolument,
qui.
qui est actuellement, qui est depuis les années 80, il semble
Redynamisée,
non, depuis les années
réactivée.
80, il y a eu comme un oubli.
Oui.
Comme un oubli, ce n'est que maintenant qu'on redécouvre toutes ces productions qui ont jeté un regard assez important sur ces siècles d'histoire, et notamment pour ceux qui nous intéressent, les révoltes agraires dans le continuum des résistances de l'Algérie coloniale.
Donc c'est notre but serait que l'auditeur ait envie
Oui,
donc de
redécouvre toute cette richesse au niveau des productions d'écrivains, d'historiens algériens. Abdelkader Djerloul est un analyste, puisqu'il continue encore de produire, analyste des problèmes historiques, et notamment il s'est distingué dans la presse écrite dans les années 70, dans Algérie Actualité, journaliste Algérie Actualité. Et cet ouvrage d'ailleurs, Éléments d'histoire culturelle algérienne, comprend 25 textes qu'il a fait paraître dans Algérie Actualité et qui composent cet ouvrage qui se présente comme une anthologie de 25 textes en portrait d'hommes politiques, en poètes. Et ces portraits sont donc accompagnés des productions des poètes ou d'hommes politiques présentés. Du 19e siècle au début, de la fin du 19e siècle au début du 20e, et qui ont exprimé des formes de résistance culturelle à la colonisation. En filigrane, on peut dire que d'un texte à l'autre se dessinent les mutations de la culture algérienne dans son évolution. Abdelkader Djerloul, dans sa préface, souligne fort justement que l'ouvrage a pour ambition de jeter un pont, comme nous le faisons
Oui.
souvent ici dans le cadre de l'émission, un pont entre les préoccupations d'aujourd'hui, la référence d'aujourd'hui c'est 1980, et les questions d'hier. Il dit que le présent n'est que le résultat provisoire de processus historiques complexes, souvent occultés et mystifié. C'est ce que Abdelkader Djerloul note dans son introduction. Comme je l'ai dit, cet ouvrage est une anthologie. Une anthologie, c'est-à-dire un choix de 25 textes qui ont marqué de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. D'ailleurs, le dernier texte, il est consacré à l'Arbi Ben Mehdi en 57. Donc, il y a toute une évolution. Comment a évolué l'expression culturelle algérienne de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 20e, évidemment, jusqu'au milieu des années 50 avec la guerre de libération nationale.
Donc c'est ce qu'on peut dire sur cet ouvrage, Éléments d'histoire culturelle algérienne. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une autre particularité dans ce livre ? Est-ce qu'il y a des faits à souligner ?
Oui. Dans la première partie, par exemple, l'islam algérien face à la modernisation coloniale, l'auteur donc retrace toute cette évolution avec d'abord dans l'expression culturelle le refus, comme nous l'avions vu dans les razouettes, le refus symbolique de la défaite, jusqu'au mimétisme, c'est-à-dire une tentative de synthèse entre l'expression religieuse et entre guillemets la modernisation suite à la colonisation, cette tentative de synthèse pousse donc Abdelkader Jaloul à donner un portrait de l'émir Abdelkader, puisque nous avions dit que c'était le chef religieux, le chef spirituel qui a installé les bases d'une société ou même d'une résistance moderne. Après l'émir Abdelkader, il donne d'autres portraits d'hommes ayant exprimé cette résistance par le dialogue. Ce n'est plus cette résistance refus, mais une résistance dialogue entre l'islam et la modernisation, mais entre guillemets, je ne suis pas vraiment à la place de Jaloul, j'aurais mis modernisation entre guillemets, puisque c'est un concept flottant qui réfère donc, s'il fait référence à la colonisation. Il donne les portraits de Si Mohamed Ben Rahal, Ibrahim Bayoud, Tahar Haddad, qui se sont exprimés au début 1900 sur des problèmes, sur les différents aspects liés donc à l'islam et les nouvelles problématiques de la colonisation. Et nous avons également les nouvelles formes d'expression culturelle qui composent un autre chapitre. Mmh. Il donne par exemple les deux premiers journaux de la presse algérienne. Ensuite, les autres formes de résistance jusqu'au centenaire colonial avec Mohamed Laïd, Choukri Khouja, jusqu'à la naissance du théâtre algérien. Nous avons les deux grands noms du théâtre algérien, Allalou, Rachid Ksantini. Et ensuite, il y a tout un chapitre sur les aspects de la culture populaire. Et c'est là que nous retrouvons les poètes, donc Mustapha Ben Brahim avec L'amour, le vin, la verte tribu de Mustapha Ben Brahim.
Oui, c'est un ouvrage de référence.
Oui, absolument. Vous avez également La guerre, l'amour, l'exil avec Mohamed Belkhair. Et ensuite, il y a toute une culture, une expression culturelle que nous allons aborder plus tard avec les hors-la-loi et la culture populaire, les Bouziane Al-Qadi, les Messaoud Ben Zalmat, c'est les bandits d'honneur. Oui. Ensuite, nous avons tout un autre chapitre maintenant sur la reprise historique. Les Algériens, lors de la Première Guerre mondiale, les revendications avec l'émir Khaled. D'ailleurs, Abdelkader Jaloul dit que ça a été le catalyseur de la reprise historique. Et ensuite, l'accélération de l'histoire avec la guerre de libération nationale jusqu'à l'Arbi et Ben Mehdi.
Oui.
Nous voyons bien cette évolution. Et comme vous dites, c'est un ouvrage de référence. C'est une anthologie très intéressante et qui servira de documentation à tout étudiant qui s'intéresserait donc à cette évolution de l'expression culturelle.
Voilà, alors on vous rappelle le titre de cet ouvrage, Éléments d'histoire culturelle algérienne, écrit par Abdelkader Jaloul. Puis voilà, j'espère que. On ne fait pas de publicité, mais ça vaut la peine de le lire. C'est ainsi que se termine notre émission. Nous espérons vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir.
À bientôt.
لا زهولا مدوم لا جماعة يا جيم الموم بينهم غنات يا وزي دناك بيا ومساوري لا هوا ملا وعشان كلتم وسعد خاب لما وين يعرف يا مقداري لما وان يذكر يا اسمي لا يقولوا شغاب مالي وذي اللي بشاوري مالي سيا في الناس عاشين اللي ما سباب ربي سبحا ونداوري يذكر يا اسمي ولا ويقولوا شغاب مالي وثاني وبشاوري مالي سيا في الناس عاشين اللي ما سباب ربي سبحا ونداوري يا وطني وطني يا ناري ديك يا تبن زارة من وطن بالخبارة حليتو ما تسمع راك انت يا قلبي حزين ينخيمم وتفكر ليلة ولا نهار سيل دمعي مدري ارمل بيك كل حين ينظر تلزج قمار جاوية فوق السطار يا ميزين هم يا بقوار فوقهم زابهرين طلبي ونبايا والأشعار بعدم ذقت المرار يا المروم يا اللي نكار راهي يا قلبي حنين